Bonsoir, visite en RDC du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. Sur fond des tensions dans le Nord Kivu où les FRDC et les rebelles du M23 s'affrontent depuis lundi matin. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, le M23 et ses mentors avaient planifié cette attaque de longue date. Objectif, empêcher le déploiement de la brigade d'intervention et perturber la visite de Ban Ki-moon, toujours selon le ministre Mende. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 22 mai 2013. Participe au débat Maître Feller Lutaï-Chiroua, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le vice-gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Samuel Munga, analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Prof. Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga. Je pense que le M23 n'a jamais abandonné l'option militaire. La présence de ces deux hôtes n'a été qu'une occasion pour ce mouvement à capitaliser, pour se mettre en évidence sur sa prétendue capacité de nuisance. Jean-François Ngando de Mbandaka, l'Équateur, c'est que font les M23 s'appelle autodestruction. Ban Ki-moon ne perdra rien car tout va bien dans son pays jusqu'à quand l'homme congolais continuera à détruire son pays pour enrichir les étrangers. Le temps est venu pour les M23 d'échanger d'attitude par amour pour les générations présentes et futures. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, les combats s'intensifient dans la région de Mutao, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. C'est depuis 3 jours maintenant que ces affrontements opposent les FRDC aux rebelles du M23. Gisèle Cage pour les détails.
Les combats sont rudes depuis tôt ce matin, selon plusieurs sources locales. Les deux parties sont engagées dans un combat à l'arme lourde, affirment les mêmes sources. Et de préciser, les rebelles du M23 sont appuyés également par 3 chars de combat pour pilonner une fois de plus les positions de l'armée régulière à Mutao à partir de Mujoga à au moins 2 kilomètres des positions FRDC. C'est justement à Mutao que depuis le 3 jours d'affrontement, le M23 tente sans succès de percer les lignes de front des FRDC. Ainsi, les détonations d'obus se font entendre dans plusieurs quartiers périphériques de Goma, ce qui inquiète les habitants de ce quartier et même ceux du territoire de Nyiragongo. Mais le président de la société civile de Nyiragongo rassure, pas de panique, la situation est sous contrôle des FRDC. Mambo Kawaya, Jean-Claude.
J'appelle la population de la ville de Goma d'être calme, de ne pas s'inquiéter parce que nous savons bien que l'ennemi est en train de propager bientôt, ça va tomber, Mugunga va tomber, Goma va tomber. Je rassure notre population, la situation est sous contrôle. Les FRDC se comportent très très bien sur la ligne de front.
Pour sa part, Vianney Kazarama, porte-parole du M23, dit que son mouvement n'a pas l'intention de prendre la ville de Goma, que s'ils font la guerre, c'est justement pour déloger les FRDC de Mutao. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plusieurs activités ont tourné au ralenti ce mercredi dans la ville de Goma. Cette situation est consécutive aux affrontements qui opposent depuis 3 jours ce mercredi les FRDC aux rebelles du M23 dans le territoire de Nyiragongo. Hier mardi, dans une conférence de presse à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a lui aussi dénoncé la présence d'un pays étranger voisin à la RDC dont les troupes appuient les rebelles du M23 dans ces combats. Le porte-parole du gouvernement condamne ces attaques qui, selon lui, ne sont pas le fait du hasard. On écoute Lambert Mende.
Cette énième attaque contre notre pays, manifestement préparée de longue date, au regard des moyens humains et matériels projetée par les forces négatives vise manifestement à dissuader, voire empêcher le déploiement de la force spéciale internationale. Vous savez également comme moi que nous sommes à la veille d'une visite importante du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans notre pays. Tout laisse croire que le M23 et ses mentors veulent créer une situation qui leur permettrait de perturber cette visite.
Monsieur le ministre, vous parlez d'un pays voisin qui a armé le M23. Pourquoi vous ne voulez pas citer ce pays alors que la société civile du Nord Kivu a cité le Rwanda qui aurait envoyé des militaires et des armes?
Mais je pense que nous ne disons pas deux choses différentes. Vous avez prononcé, la société civile l'a prononcé. Vous croyez que ça entrera dans l'oreille des Congolais uniquement si moi je le dis? Je pense que tout le monde a entendu.
C'était la Lambert Mine des porte-parole du gouvernement. Maître Feller Lutaichiroa, je vous rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Dites-nous, monsieur le vice-gouverneur, comment se présente la situation ce soir dans la ville de Goma?
En fait, madame, depuis trois jours, les FARDC font face à des attaques récurrentes du M23 à partir des altitudes sous le volcan Nyiragongo. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, du point de vue de l'altitude, Goma se trouve en basse altitude par rapport aux positions du M23, parce que le M23 ne s'est jamais exécuté conformément au comité des chefs d'État de Kampala du 24 novembre 2012 qui demandait au M23 de se retirer au-delà de 20 km, ce qui devrait assurer que Goma était à l'abri de quelconque tir. Et malheureusement, depuis qu'ils ont appris que dans l'application de la résolution 2098, et la brigade spéciale commençait à se reconstituer à Goma, non seulement ils ont proféré des menaces, mais aussi ils se sont organisés pour renforcer leur position et commencer à attaquer les positions défensives des FARDC. Et depuis trois jours, les FARDC font face à ces attaques. Et Dieu merci, les FARDC sont fermes, tiennent leur position et battent en échec tous les assauts. Malheureusement, ils ont utilisé, dans le M23, ont utilisé des projectiles à longue distance. Et comme ils essuyaient des échecs de la part des FARDC, ils ont choisi d'attaquer la ville en projetant des projectiles de longue portée, faisant des morts et des dégâts importants au sein de la ville. Et nous profitons de cette occasion pour dire condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Il y a des petits-enfants qui sont décédés et c'est vraiment déplorable.
Oui, on sait que les activités ont tourné au ralenti ce mercredi dans la ville de Goma. Est-ce que c'est la situation ce soir? Comment vivent la population de Goma?
En fait, la population de Goma, elle est sereine, sauf que quand il y a des crépitements et particulièrement des bombes, cela inquiète. Mais aussi avec les projectiles venant de l'altitude, c'est-à-dire de la position qu'occupait le M23 au niveau de Kibati, cela faisait qu'il larguait des bombes en pleine ville dans les quartiers nord-ouest de la ville, Ndosho, Mugunga, et cela ne pouvait pas laisser la population.
Est-ce que ce soir la ville est calme, monsieur le vice-gouverneur?
Nous continuons à informer la population de ce qui se passe, et il faut retenir que les FARDC ne peuvent pas se laisser quelconque latitude d'indiscipline parce que les FADC continuent à maintenir leur position. Ce sont des positions protectrices de la ville. Vous... Et donc, jusque-là, les FADC n'ont pas lancé quelconque assaut.
Merci, monsieur le gouverneur. Vous l'avez déjà dit. Merci, monsieur le gouverneur. Vous l'avez déjà dit. Mais on voudrait savoir si la ville est calme ce soir à Goma.
Actuellement, la ville est calme. Déjà, à partir de 14h15, en tout cas, la ville était très calme.
Alors, monsieur le gouverneur, le vice-gouverneur, vous dénoncez le fait que les M23 n'ont jamais respecté ce que les chefs d'État des pays des Grands Lacs avaient demandé, c'est-à-dire se retirer de 20 km de Goma. Pourquoi c'est maintenant que vous dénoncez ça?
Non, nous l'avons toujours dénoncé. Il faut retenir que quand quelqu'un est dans une déviance, et ce mouvement est dans une déviance depuis que les hostilités avaient été lancées, les chefs d'État de la CIRGEL avaient déjà demandé en juillet 2012 que les M23 puissent rentrer dans ces positions de juillet 2012. Malheureusement, le M23 ne s'est jamais exécuté. Les chefs d'État de la CIRGEL, y compris l'Union africaine, et maintenant avec la résolution 2098 et plus haute autorité des Nations Unies, il se fait que les M23 ont choisi de narguer le monde entier. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister depuis 3 jours.
Voilà, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé en RDC. Demain, il sera à Goma. Entre-temps, il y a ces affrontements entre les M23 et les FRDC. Est-ce que c'est pas un mauvais signe?
Non, pas du tout un mauvais signe, comme ça ne peut pas surprendre qu'un chien enragé cherche à mordre à tout prix et toute personne qui passe. Donc c'est tout à fait normal que ça demeure dans sa déviance et que le M23 considère que la bonne manière d'accueillir le secrétaire général, c'est larguer des bottes sur la ville dans des populations civiles tuant des personnes innocentes faute de réussir de percer les positions protectrices.
Merci, monsieur le vice-gouverneur, maître Marc Avota. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Quelle lecture vous faites de ces affrontements qui ont repris entre les FRDC et les rebelles du M23? Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de ces affrontements.
Merci, madame, pour votre question. Et je vous demanderai de me permettre de commencer par saluer son excellence, monsieur le vice-gouverneur, ainsi que notre analyste politique, mais également tous les auditeurs de Radio Okapi. Madame, ce qui est arrivé était minutieusement préparé. Et nous l'avions déjà dit depuis la semaine dernière, à travers nos différentes alertes, nous avions demandé à toute l'opinion d'attirer l'attention par rapport à ce qui se passe. Nous avions dit que le M23 était en train de préparer une guerre contre la ville de Goma. C'est ce qui est arrivé. Malheureusement, les autorités n'ont pas pris au sérieux notre sonnette d'alarme. Quoi qu'il en soit, le M23 ne s'est pas réservé d'arriver au bout de sa conspiration. Et l'image de ceux qui s'observent comme des gars ici à Ville de Goma est grave, madame. Parce que non seulement les M23 s'attaquent au FRDC, mais ils s'apprennent également aux civils. C'est pourquoi monsieur le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, est revenu sommairement sur les dégâts perpétrés. Je voudrais juste rappeler quelques dégâts importants du côté des civils. Mardi dernier, ils ont largué plus de 6 bombes vers les camps des déplacés de Mugunga, qui a fait 6 blessés. Aujourd'hui, madame, ils ont lancé 2 bombes autour de 9h30 et des bombes qui ont atteint les quartiers Ndosho, donc à côté de l'église catholique de Ndosho, tuant une fillette de 3 ans et faisant 3 blessés et détruisant également une maison. Vers 12h30, c'était encore deux autres bombes qui ont tapé l'Institut Mikono, donc du côté de l'Institut Mikono dans le même quartier. Là, on a déploré encore un mort, un garçon de 11 ans et trois autres blessés. Autour de 15h, donc entre 14h30 et 15h, c'est encore deux autres bombes qui sont tombées du côté de l'Institut François-Xavier qui a occasionné encore cinq blessés. Bref, je ne reviens pas sur tout ce qui a été, mais nous avons enregistré un bilan de 3 morts et 17 blessés et au moins 5 maisons détruites. Tout ça, ce sont des dégâts perpétrés par le M23, madame.
Maître Omar Kavota, vous dites que vous avez alerté les autorités congolaises sur la planification de ces affrontements. Vous parlez de quelles autorités?
Mais madame, il y a des autorités à tous les niveaux qui nous ont suivis. Au niveau provincial, au niveau national, toutes ces autorités ont appris, ont été alertées, y compris en-delà de ces autorités congolaises. Nous avons alerté également la MONUSCO, la CIRGL, donc bref, tous les partenaires, et nous avons pris la communauté internationale à témoin face aux dangers qui s'observaient. Mais les autorités congolaises, pratiquement, ils n'ont pas cru que ce que nous étions en train de dire était vrai. La MONUSCO, la CIRGL, comme tout le monde, n'a rien fait pour empêcher ce qui est arrivé. Et voilà, nous sommes arrivés à la catastrophe. Mais il faut qu'on relève les défis immédiatement.
Alors, Maître Omar Kavota, comment on peut expliquer le fait que ces affrontements ont repris à deux jours de l'arrivée du secrétaire général en RDC? Comment on peut expliquer cela?
Madame, si on se pose la question de savoir pourquoi ces affrontements, on doit seulement dire que ces affrontements n'ont pour but que de cracher sur le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui est en visite ici. C'est une façon de défier les Nations Unies, c'est une façon de chercher à humilier les Nations Unies, tout simplement parce qu'on sait que c'est M. Ban Ki-moon qui a été initiateur de l'accord cadre signé à Addis Abeba, un accord cadre qui a imposé les États de la sous-région à observer et à s'intégrer dans la logique de la paix à ses liens. Et comme vous le savez, ceux qui profitaient de la déstabilisation n'étaient pas contents. Et parmi eux figurent effectivement les Rwanda qui agissent en coalition avec le M23 pour faire cette déstabilisation, et donc pour le prendre à témoin des dégâts et qu'ils ne sont pas disposés à appliquer l'accord cadre dont il est l'initiateur. Et donc une façon de taper sa visite et une façon de discréditer les Nations Unies, exprimer que ces Nations Unies sont incompétentes à empêcher le M23 à arriver à faire tout ce qu'il veut.
Alors, Maître Omar Kavota, les deux camps s'accusent mutuellement. Les FRDC accusent les M23 d'avoir lancé l'offensive. Les M23, de son côté, parlent des FDLR qui ont occupé leur position. Et comment on peut comprendre ou expliquer ce jeu de ping-pong?
Non, mais quel FDLR il faut faire allusion? Nous, on avait alerté que le M23 était en train de planifier des attaques. Le M23 s'était déjà déployé à Moutaro. Nous avons donné toutes les localités, toutes les dispositions qui étaient prises par le M23 pour attaquer. Nous avons dit bien avant lundi ou la matinée de lundi, parce qu'on avait des informations de la part de la population qui observait les mouvements du M23. Le M23 a lancé des assauts sur les forces loyalistes. Et malheureusement, les forces loyalistes risquent d'être victimes de leur comportement. Quand nous avons alerté, elles devaient faire le premier pas en attaquant le M23. Mais voilà, elles ne sont qu'en train d'agir à des passifs.
Merci, pas... Maître Omar Kavota. Samuel Munga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à la liste en question internationale. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Mmh. Nous parlons de la visite en RDC du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale sur fond des tensions dans le Nord Kivu, où les FRDC et les rebelles du M23 s'affrontent depuis lundi matin. Quelle analyse vous faites de cette situation?
Merci madame pour la question. D'abord, je voudrais compatir avec nos populations de l'Est de la République. Une fois encore, elles subissent de plein fouet les affres de la guerre qui se traduisent concrètement par des exactions extraordinaires sur le plan humanitaire. Et je crois que les retombées ou les repercussions seront lues encore de nombreuses années après ces tristes événements. C'est vrai que, diplomatiquement parlant, la visite du secrétaire général des Nations Unies est relativement importante. Elle est même importante. L'ONU constitue l'organisation multilatérale suprême. C'est celle qui a la vocation universelle. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a une visite de son chef, à savoir le secrétaire général, qui de plus, dans le cas présent, est accompagné du numéro 1 de la Banque mondiale. C'est aussi important compte tenu du contexte particulier autour de cette visite. On sait que depuis le 24 février 2013, un accord cadre d'Addis Abeba a été signé, un accord qui décide de s'attaquer aux maux les plus profonds de la crise à l'est de la République et qui tient compte de sa dimension non seulement nationale, mais régionale, mais aussi, pourquoi pas, internationale. Alors, cet accord, à l'époque de sa signature, avait suscité, vous vous souviendrez, pas mal de pessimisme, beaucoup de remous. Mais pourtant, si on observe les 3 mois qui ont suivi la signature de cet accord, on se rend bien compte qu'il y a une série d'éléments clés à l'actif de ceux qui y croyaient. Je pense, par exemple, au fait que, dès le début, l'ONU a pris en charge la direction ou a décidé de chapeauter cet accord. On a vu un secrétaire général hautement actif. On a vu au moment de la signature, ou plutôt de la prise de la résolution 2098, qui permet la mise en place de la brigade d'intervention, une brigade historique, puisque n'ayant jamais existé sous cette forme-là nulle part ailleurs. Et puis, cette visite en RDC traduit, à mon humble avis, une volonté quasi irréversible de la communauté internationale d'avancer dans la logique d'Addis Abeba. C'est vrai qu'il existe un débat, peut-être, pour savoir qu'en est-il finalement de Kampala. Il y avait une logique apparemment politique de dialogue. Mais je pense qu'encore une fois, le M23 se retrouve pris dans une logique de son propre piège. Vous savez, un mouvement comme celui-là, dès lors qu'il perd sa crédibilité, eh bien, dans le rapport de force, il n'a plus le même poids. Il y a eu, vous vous souviendrez, de nombreuses désertions, des dissensions, et puis un départ assez important d'hommes en armes vers le Rwanda. Cela a des conséquences, c'est vrai, sur le plan militaire, mais sans doute aussi sur le rayonnement politique de ce mouvement. Ce mouvement se trouve donc dans une logique où il faut se battre pour exister. C'est ça. Il est dans une posture d'affrontement, une posture de confrontation qui laisse présager que la logique militaire a provisoirement pris le pas sur la logique politique. C'est du moins ce qu'on peut lire. Mais, je vous en prie, madame.
Et par rapport à la visite du secrétaire général, on a entendu Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Pour lui, la reprise de ces affrontements, c'est pour défier la communauté internationale.
Oui, mais vous savez...
Alors qu'une accalmie s'est observée pendant 3 mois, je dirais même, presque 3 mois.
Les observateurs les plus avertis ne sont pas surpris de la réaction du M23. Le M23 est dans une logique de dos au mur. Il nous présente un visage du déjà vu. c'est plutôt un désarroi qui se lit dans les rangs du M23. Vous savez, la résolution prise, la résolution 298, mais surtout la substance de l'accord cadre d'Addis Abeba, en décidant d'anéantir les forces négatives, il va de soi que vise directement des mouvements tels que le M23. Le M23 sait qu'il est la cible directe des initiatives prises actuellement dans la sous-région, particulièrement à l'est de la RDC.
Alors, on va prendre pour vous, Samuel Monga, cette réaction qui nous vient de Kalima Omanyema. On va suivre cet auditeur et puis on revient après.
Je vous en prie.
Charles Ingen à Kalima, dans la province du Maniema. Ban Ki-moon arrive en RDC sur fond des crépitements des Kalachnikov et autres détonations des obus au nord Kivu. L'ONU peut-elle encore chercher pour la énième fois les preuves de la mauvaise foi et la détermination du régime de Kigali à déstabiliser la RDC? Nous pensons que pour la communauté internationale, c'est l'occasion ou jamais de faire preuve d'une réelle volonté politique de rendre justice au peuple congolais, en arrêtant net cette mésaventure criminelle du Rwanda, qui du reste a trop duré.
Réaction.
C'est vrai, je comprends la réaction de mon compatriote, mais je voudrais juste dire qu'il faut qu'on se projette un peu vers l'avant, à savoir si Kigali a soutenu la rébellion. Bon, ce n'est plus tellement à débattre. L'ONU auquel il fait référence détient des rapports concluants et concrets sur l'implication de Kigali dans cette partie de notre pays. Bon, maintenant, ce qui me paraît extrêmement important à ce stade, c'est que la communauté internationale s'est engagée de manière quasiment irréversible à mettre un terme aux activités de ces forces négatives. Et cela, c'est un acquis. Les événements, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent de s'accumuler en termes d'étapes, démontrent clairement que pour des groupes, des forces négatives telles le M23, eh bien, il est temps de prendre peut-être la vraie mesure des enjeux de son propre destin. Et c'est peut-être pour ça que dans un geste quasiment de désarroi, le M23 a d'abord tenté de démobiliser les opinions nationales des pays impliqués dans la force, la brigade d'intervention, encore que je ne sais pas quel est réellement le poids de ce type de démarche en Afrique, et il tente encore une fois ici d'alerter par les armes, mais assez paradoxalement, c'est une raison supplémentaire pour la communauté internationale de fonctionner dans la démarche prise.
Merci Samuel Monga. Monsieur le vice-gouverneur, Maître Feller Lutaïchiroua, vous avez suivi les analyses des uns et des autres. La société civile a alerté les autorités, vous y compris, sur ces affrontements qui étaient préparés depuis longtemps par les M23. Qu'est-ce que vous avez fait pour contrecarrer cette planification du M23? Allô? Allô? Est-ce que vous êtes en ligne, monsieur le vice-gouverneur? Alors, la réalisation me signale qu'on a des petits soucis avec la ligne du vice-gouverneur. On va essayer de le retrouver. Maître Omar Kavota et à cet auditeur Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga qui dit ceci, je pense que le M23 n'a jamais abandonné l'option militaire. La présence de ces deux hôtes n'a été qu'une occasion pour ce mouvement à capitaliser, pour se mettre en évidence sur sa prétendue capacité de nuisance.
Oui, il dit vrai. Non seulement le M23, mais on doit ajouter Sopare le Rwanda, parce que au cours de cette aventure, le Rwanda est intervenu militairement, a déployé 4 bataillons. Nous l'avions indiqué dans notre communiqué que nous avons publié hier. Il a également appuyé en armes lourdes et munitions. Il y a 2 chars qui sont visibles à 3 antennes à Kibati sur la ligne de front. Donc le Rwanda est intervenu. Nous sommes victimes.
Maître Marcavota, excusez-moi, oui. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez?
Madame, nous avons des preuves. Et quand je vous parle des 4 bataillons, dans notre communiqué, nous avons indiqué où se localise chaque bataillon parmi les 4. Et en plus, les Rwandais, les militaires rwandais sont entrés, même les derniers bataillons, parce qu'ils étaient déjà fatigués à entrer la nuit. Ils sont venus en plein jour, ils ont traversé Gassizi, ils sont entrés, ils ont marché à pied dans la localité de Kingarambe, et de là, ils sont allés au front. Et aujourd'hui, il y a un officier supérieur de la RDF qui a été abattu sur le front, et un autre officier d'une compagnie qui a été abattu sur le front, et les deux corps ont été acheminés au Rwanda. Ça, vous pouvez vérifier, madame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à se cacher de vérité.
Merci, maître Marc. À votre signal que le vice-gouverneur est en ligne. Monsieur le vice-gouverneur, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame. La ligne, elle est rétablie.
Voilà, il y a cet auditeur de Manono Katanga, il s'appelle Kabayou, qui dit ceci. Parler de la planification de l'attaque du M23 depuis très longtemps, est-ce une information ou une plainte? Quelles sont les dispositions prises par les autorités pour contrecarrer la planification du M23?
Au fait, madame, ce qu'il faut retenir, c'est que nous adhérons à l'analyse du vice-président de l'Assemblée de la société civile que nous saluons aussi, mais en disant que pour le gouvernement, nous ne pourrions pas nous comporter comme la rébellion. De telle façon, les M23, c'est un mouvement marginal du point de vue de la loi. Et il se fait que le gouvernement a signé des protocoles d'accord, et dans la diplomatie, le gouvernement doit observer une ligne qui est suivi aussi avec les partenaires, les pays voisins, les pays de la Sirigel, la UNESCO. C'est actuellement que la brigade est en train de se constituer. Il faut retenir que pour la paix à l'Est, ce n'est pas seulement le M23 qui est la seule menace. Il y a pas mal d'autres menaces. Il y a les FDLR, il y a les ADF Nalu, les LRA, les mouvements Maïmaï. Et donc, pour le gouvernement, on a une grande vision pour une paix durable à l'est du Congo. On ne devrait pas seulement jouer sur les violents M23 et qu'à cela ne tienne.
Monsieur le vice-gouverneur, excusez-moi.
On a pu renforcer les positions protectrices et nous pensons que jusque-là, les FARDC se comportent impeccablement compte tenu de quelques indicateurs comme le nombre de rendus. Aujourd'hui, on en a enregistré plus de 27. Hier, c'était une quarantaine venant du M23. Tout cela sont des signes que les FARDC se comportent bien. La ville de Goma est bien protégé.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, si je vous comprends bien, pendant que le M23 était en train de monter des stratégies ou de planifier ses attaques ou ses affrontements, le gouvernement n'a rien fait pour déjouer le plan du M23.
Non, le gouvernement a renforcé ses positions protectrices de la ville, pas seulement de la ville, mais aussi des autres positions, que ce soit Rwindi, à l'ouest, au nord comme au sud. Et il faut retenir aussi que le M23 était bien suivi et nous disons qu'ils ont essayé avec leurs assauts et tous les assauts non seulement sont battus en échec, il se fait qu'il y a beaucoup de rendus et nous considérons que les FARDC ont pu faire ce qu'elles devaient faire.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, on évoque la présence des militaires rwandais aux côtés du M23. Vous confirmez cette information?
Madame, il se fait que au-delà du M23, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, et il se fait que nous ne pensons pas que le M23 pourrait obtenir des chars autrement que par un approvisionnement, et comme vous le savez, un char, c'est un engin assez lourd, assez imposant, mais compte tenu aussi des obus à longue portée qui ont été largués sur la ville de Goma. Nous considérons que ce n'est pas en tout cas dans le parc que le M23 a obtenu ces obus-là, et tenir pendant 3 jours, ce n'est pas dans le parc, ce n'est pas dans le parc que le M23 a obtenu toutes ces munitions. Et donc, de telle façon, le M23 est en train de s'approvisionner de quelque part, ce qui est corroboré avec les investigations de la société civile, mais aussi des services.
Merci, Monsieur le vice-gouverneur, Maître Omar Kavota. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Je suis Matumaini Franquet depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Toutes ces visites ne serviront à rien tant qu'il n'y aura pas une cohésion interne au sein de la République démocratique du Congo. D'où les deux personnalités devraient pousser les politiques congolais à organiser le dialogue national annoncé avec pompe, mais qui n'arrive pas, car les efforts de l'ONU paraissent aux yeux des Congolais insuffisants à la suite de la faiblesse du gouvernement congolais qui ne sait pas capitaliser l'appui que la MONUSCO lui apporte, car secoué par des divisions internes.
Maître Omar Kavota, nous sommes là déjà dans les solutions. Matumaini Franklin estime que toutes ces visites des hautes personnalités du monde ne serviront à rien tant qu'il n'y aura pas de cohésion interne.
Non, madame, je ne partage pas ce point de vue, parce que nous savons que l'accord cadre qui devait stabiliser cette sous-région, c'est l'expiration de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Nous pensons plutôt que sa visite arrive à point nommé et il vient découvrir le M23 et ses alliés. C'est-à-dire, il doit se rendre compte, attaquer grand témoin. Nous le prenons, nous, pour grand témoin de ces événements. Bien sûr, nous sommes victimes de cette barbarie du M23. Mais le fait que lui-même vienne voir ce qui se passe, il ne passera pas que nous avons exagéré dans les rapports qu'il peut recevoir à New York. S'ils peuvent se passer de sa visite pour démontrer combien de fois ils sont terroristes, il va alors prendre les dispositions qui s'imposent pour que même la brigade d'intervention se mette en œuvre pour éradiquer ces groupes armés. Et nous considérons que sa visite est réellement arrive à point nommé et nous la saluons. Nous pensons donc qu'il va comprendre que la vie de milliers de populations du Nord Kivu est en danger et il va se comporter conséquemment. Il va intimer l'ordre à cette brigade d'intervention à pouvoir se mettre en œuvre.
Voilà, merci Maître Omar Kavota. Samuel Munga, vous allez répondre aussi à la question, la préoccupation ou à la proposition de cet auditeur qui estime qu'il faut d'abord un dialogue interne pour arriver à mettre fin à cette crise dans l'Est, dans le Nord Kivu. Il parle aussi de la faiblesse du gouvernement congolais qui ne capitalise pas l'appui que la MONUSCO lui apporte car secoué par des divisions internes.
J'ai effectivement suivi avec une attention particulière le point de vue de notre compatriote, également la réaction de Maître Omar Kavota. C'est vrai, j'ai toujours eu l'impression qu'il est dangereux en ce qui concerne la situation de l'Est d'avoir une vision un peu étriquée ou isolée ou isolationniste des choses. Je pense qu'il faut bien garder une dimension globale, une approche beaucoup plus intégrée des choses. On le sait aujourd'hui, le problème de l'Est, c'est un problème tentaculaire. C'est un monstre à plusieurs têtes. Et que, fatalement, en dehors du problème militaire, il y a bien sûr des antagonismes locaux, il y a le problème des ressources naturelles, il y a toute une série de problèmes. Y compris le besoin, sur le plan national, d'avoir un dialogue. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense que, on le sait, le chef de l'État a amorcé le pas dans ce sens, mais aussi l'accord cadre lui-même prévoit un mécanisme de suivi national qui laisse un espace pour ce type de dialogue, ce type d'interaction. Et moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites assez rapidement, de manière prioritaire.
Lesquelles?
Aujourd'hui, sans vouloir mettre de côté la dynamique politique ou le règlement plus diplomatique de ce qui se passe à l'Est, je pense que manifestement l'option militaire semble poindre à l'horizon comme une option impérative et rapide. Nous avons affaire sur notre territoire à des mouvements, à des forces négatives qui minent la stabilité et par projection qui entament la capacité de développement de cette partie de notre pays, indirectement de notre pays. Alors, je pense que la communauté internationale, avec les acteurs régionaux, sous-régionaux et même les acteurs nationaux, a parfaitement intégré le fait que il faut anéantir ces forces, d'où la création d'une brigade sui generis. Et je suis convaincu que l'arrivée de Ban Ki-moon, diplomatiquement, devrait être perçue par le M23, en tout cas de son point de vue, comme une forme de défaite. Si l'on considère que le M23 tente de convaincre M. Ban Ki-moon de l'impossibilité ou du non-sens de mettre en place cette brigade, je me dis que les dernières violences, les derniers conflits pousseraient plutôt à éradiquer davantage ce type de force.
Mais c'est pas le point de vue que partage Patrick de Goma au Nord Kivu qui dit ceci. Nous saluons l'arrivée des Ban Ki-moon en RDC. Malheureusement, ce que nous subissons présentement à Goma est le résultat de l'impuissance des Nations Unies.
Il est en train de dire quelque chose, à mon avis, son commentaire s'inscrit dans une dynamique historique. Je crois qu'il se réfère sans doute à un passé récent, où c'est vrai que le rôle joué par les Nations Unies a souvent subi pas mal de critiques, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais je constate que depuis février, eh bien, les Nations Unies ont adopté une ligne de conduite assez claire, à savoir veiller à ce que l'intégrité nationale de notre pays soit restaurée en éradiquant toutes ces forces négatives.
Merci.
Et c'est précisément ce qui est en train d'être fait.
Merci Samuel Munga, monsieur le vice-gouverneur. Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Il y a Robert Kabandani de Bukavu Sud, Kivu, qui dit ceci. Ce qui est plus important actuellement pour nous, les Congolais, surtout nous du Kivu, ce n'est pas de connaître les raisons qui ont poussé les M23 à nous attaquer, mais c'est d'interpeller le gouvernement sur ses responsabilités. Le gouvernement a aussi une part de responsabilité dans cette situation.
Madame, il faut retenir qu'il n'y a rien qui tombe au hasard. L'arrivée de son Excellence le Secrétaire général des Nations Unies est un résultat d'un travail qui a été mené dans le cadre de la diplomatie, et nous considérons que c'est une grande opportunité. Vous avez déjà suivi à Kinshasa les retombées de sa visite avec le président de la Banque mondiale. La résolution 2098 n'est pas une résolution qui se suffit elle-même, donc pour nous, c'est une opportunité à plaidoyer parce qu'il y aura encore énormément de défis, eu égard aux démobilisés, eu égard aux réfugiés, eu égard au ramassage des armes, eu égard à la réconciliation,
eu
égard à l'assainissement du point de vue des mines et consorts.
En conclusion, monsieur le vice-gouverneur,
que les meneurs des troupes puissent se sentir évincés par cette visite. Et que donc, avec tous ceux qui le soutiennent et qui gagnent à travers de l'eau trouble, et quand ici
Merci.
Il y a instabilité et ils gagnent. Donc nous considérons que cette visite arrive à
point nommé. Merci monsieur le vice-gouverneur. Maître Omar Kiavota, 15 secondes en guise de conclusion.
C'est un moment ou jamais pour M. Ban Ki-moon d'imposer la puissance des Nations Unies en ordonnant que la brigade d'intervention en finisse avec le M23. C'est aussi ce moment pour le gouvernement de prendre ses dispositions. Lorsqu'il a été attaqué, il a résolu se défendre. Il doit se défendre jusqu'à libérer les populations.
Merci, maître.
De Congo.
Merci, maître Omar Kiavota. 10 secondes, Samuel Munga.
En diplomatie, il faut réserver une attention particulière aux gestes. Et je pense que l'arrivée de M. Ban Ki-moon est lourde de symbolisme pour la situation de l'RDC. Et je suis confiant que les choses finiront par s'arranger.
Merci Samuel Munga, c'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Radio Okapi.